Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Les Bateliers.
Les Bateliers est un groupe anarchiste actif en Macédoine, alors Roumélie ottomane, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Batelier se dit Gemidji en macédonien.
Contexte. Depuis le XVIe siècle, le terme de Roumélie désigne l'ensemble des territoires balkaniques de l'Empire ottoman, en opposition à la partie asiatique de l'Empire, appelée Anatolie. Administrativement, on parle du Patchalik de Roumélie, qui comprend une trentaine de subdivisions géographiques, les Sandjaks. Une réorganisation fait passer le nombre de Sandjaks à une vingtaine au début du XVIIIe. Un certain nombre d'entre eux accèdent à une autonomie au sein de l'Empire. Les Balkans sont un point de rencontre de l'influence de plusieurs empires concurrents. En 1816, un des Sandjaks obtient plus d'indépendance sous le nom de Principauté de Serbie. En 1836, le Roumélie est divisé en trois grands territoires administratifs centrés autour de Salonique, Edirne et Monastir, eux-mêmes subdivisés en plusieurs Sandjaks. Ces subdivisions varient selon les réformes en cours. Les Balkans ottomans sont secoués par de nombreuses manifestations et confrontations armées, pour l'obtention de plus d'autonomie. Ces révoltes sont un mélange de revendications sociales populaires, de recherche de plus de pouvoir des bourgeoisies locales et de contestations nationalistes. La principauté du Monténégro obtient vers 1850 son indépendance et celle de Roumanie en 1859. Le traité de San Stefano, actuel quartier de Yichikoy d'Istanbul, signé le 3 mars 1878, réorganise les provinces ottomanes à la suite de guerres russo-ottomanes dans les Balkans. Les principautés de Serbie, du Monténégro et de Roumanie accèdent à l'indépendance. La principauté de Bulgarie, déjà indépendante, s'étend de la mer Noire à la Macédoine, du Danube à la mer Égée. Elle comprend l'ensemble des bulgarophones. La Bosnie-Herzégovine reste province ottomane. Ce traité modifie aussi quelques frontières dans le Caucase. Jugé trop favorable à la Russie, ce traité est contesté par le Royaume-Uni et l'Autriche-Hongrie lors du congrès de Berlin qui débouche sur un nouveau traité le 13 mars 1878. Entre le Royaume-Uni, l'Autriche-Hongrie, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Empire russe et l'Empire ottoman. Les principautés de Serbie, du Monténégro et de Roumanie deviennent en effet indépendantes. Mais les deux premières perdent quelques territoires attribués par le traité de San Stefano. Celle de Roumanie s'agrandit, au sud, vers le Danube. La Bosnie-Herzégovine est occupée par l'Autriche-Hongrie. La Bulgarie, reconnue par ce traité, s'étend du Danube au contrefort des Balkans. Elle est autonome, mais reste vassale de l'Empire ottoman. Elle ne comprend plus ni la partie sud, qui devient la Roumélie orientale, ni la Roumélie, qui regroupe la Macédoine, la Thrace et les régions albanophones. En 1855, la Roumélie orientale proclame son rattachement à la principauté de Bulgarie. La Roumélie ottomane regroupe alors les régions entre la mer Noire à l'est et la mer Égée au sud, et l'Adriatique à l'ouest. Au nord de la Roumélie se trouvent les royaumes de Roumanie et de Serbie et les principautés de Bulgarie et du Monténégro. L'autonomie de ces principautés et royaumes balkaniques est relative, car l'Empire ottoman a négocié divers arrangements militaires, économiques ou politiques. Au sud-est, un État grec indépendant a vu le jour en 1832, après la guerre de libération épaulée par la France.
La question de Macédoine, autrement dit le sort de la Roumélie, est au cœur du jeu politique balkanique des grandes puissances européennes. Pour les uns, elle est une méthode pour affaiblir encore plus l'Empire ottoman déjà chancelant. Pour les autres, elle est une lutte anti-impérialiste ou de libération nationale. La nuance entre les deux n'étant jamais bien claire. Avec l'accession à l'indépendance de la Bulgarie, pour beaucoup de bulgarophones, la Roumélie reste un territoire sous domination étrangère qui doit être libéré. De nombreux jeunes bulgares s'investissent dans les projets de scolarisation ou d'amélioration de l'hygiène et des soins auprès des hominines bulgarophones de Roumélie ottomane. Des réseaux se tissent. Les lycées sont un vivier de révolutionnaires en herbe. Pour celles qui le souhaitent, les instituteurs révolutionnaires deviennent aussi des propagandistes. L'ouverture d'un lycée bulgare en Roumélie à Salonique en 1880 et à Andrinople 1891 sont une chose importante pour les bulgarophones de Roumélie ou de Bulgarie car ils offrent de nouvelles possibilités de rencontres et d'organisation collective. Les théories révolutionnaires arrivent en Roumélie grâce aux activistes bulgares qui les diffusent et créent ou tentent de le faire de petits groupes là où IL passe. Traduit, les textes de Bakounine circulent beaucoup et sont appréciés par les positions qu'il développe sur le fédéralisme et le soutien nécessaire aux luttes dans les Balkans. Ainsi, son fédéralisme est une réponse pratique à la question naissante et pressante des nationalités et son analyse une forme de refus du jeu géopolitique qui voudrait sacrifier un tel pour en sauver un autre. Dans ce contexte balkanique, les jeunes révolutionnaires macédo-bulgariens vont s'engager et mettre leur vie en jeu. Selon leur sensibilité personnelle et leurs options politiques, ils vont tenter d'être actrices, à leur manière, dans une lutte composite dans laquelle se croisent des appels à une réforme agraire, des discours nationalistes, une dénonciation de la pauvreté et de l'occupation militaire, des rêves d'internationalisme et de révolution, etc., etc. Les motivations sont multiples et parfois vraiment opposées politiquement. Une vraie Macédoine. Les plus révolutionnaires, bakouninistes et anarchistes communistes, vont tenter d'y mettre leur grain de sel.
Organisation révolutionnaire macédonienne, ORM.
L'organisation révolutionnaire macédonienne, ORM, est créée à Salonique en novembre 1893 par des partisans de l'indépendance de la Roumélie. Et un comité central fixe à l'été 1896 les buts de l'organisation. Ce comité s'inspire largement du programme du comité révolutionnaire bulgare, rédigé en 1869 à Genève par Bakounine et deux révolutionnaires bulgares. Soutenus par la Bulgarie, en quelques années, ils installent une véritable guérilla dans des parties de la Roumélie et parviennent à administrer de petites zones libérées grâce aux Tcheta, les milices armées, et rendent parfois la justice lors de différents locaux. Le journal Insurrection est lancé en 1894. Le premier atelier de bombes est installé en Bulgarie en 1896, suivi l'année d'après de deux nouveaux ateliers qui parviennent à tous les trois à fabriquer plus de 1000 bombes. L'ORM se finance par le billet de cotisation de nombreux adhérents et sympathisants, mais aussi et surtout, car les populations sont pauvres, par des braquages ou des extorsions de fonds auprès des dignitaires ou des représentants ottomans, et plus rarement bulgares ou grecs. Les armes sont soit achetées en Grèce, soit volées lors d'attaques de casernes. Politiquement, l'ORM n'est pas un bloc homogène. En son sein cohabitent celles qui veulent le rattachement à la Bulgarie, l'indépendance ou s'intégrer dans un projet de fédéralisme balkanique, nationaliste bulgare ou macédonien, socialiste ou anarchiste. Même si des anarchistes, collectivement ou individuellement, participent aux activités politiques ou militaires dans des Tcheta de l'ORM, parfois à des responsabilités importantes comme Götz Delchev ou Mirel Gerdjikov, les rapports ne sont pas toujours faciles, parfois tendus. L'ORM mène une lutte de libération nationale et donc, en son sein, cohabite des tendances contradictoires au nom de cette sacro-sainte libération. Tactiquement, l'ORM préconise une guerre de guérilla dans les territoires ottomans qu'elle espère conquérir progressivement et refuse les actions terroristes de petits groupes clandestins qu'elle juge inopportunes. En 1900, des comités révolutionnaires et des groupes de combattants sont présents dans de nombreux endroits de la Roumélie. L'ORM se fait connaître internationalement en septembre 1901 lors de l'enlèvement d'une missionnaire protestante américaine, Helen Stone, et de son accompagnatrice, Catherine Stefanova-Tsilka. Une rançon est demandée contre la libération des deux otages. Elles sont bien traitées et l'accompagnatrice accouche même de son enfant pendant les quelques mois de détention. Après le paiement de la rançon en janvier 1902, les deux kidnappés sont libérés. Miss Stone devient une fervente partisane de la cause macédonienne dont elle parle lors de ses différents meetings organisés aux États-Unis d'Amérique. En 1903, l'ORM devient l'Organisation révolutionnaire intérieure Macédo-Andrinopolitaine ou ORIMA. Elle intègre maintenant différents autres mouvements jusqu'alors proches, comme en 1900, la Société de l'Assomption dirigée par des femmes et dont le but est la scolarisation des plus pauvres et la mise en place de structures médicales pour soigner les combattants ou concurrentes, comme en 1902, la Fraternité secrète révolutionnaire bulgare, qui sera par la suite l'aile droite de l'organisation. Même si l'ORIMA est la plus grosse des organisations luttant pour la libération de la Roumélie du joug ottoman, elle n'est pas la seule sur ce credo, mais a une tendance à vouloir être hégémonique.
Nous sommes au Moyen-Âge. Les lampadaires ne portent pas de pendu, mais la lune est éclatante. Je suis plein de félins dans l'angoisse environnante. Je rôde dans l'air. Tout espoir à inventer chaque jour est de marbre dans la nuit. J'en fais des maquettes, des plans, planètes, constructions, assemblages d'une inventivité festive, des futurs de fêtes foraines dans le vent à l'envers. Oh la belle dans la bête, elle est ma création. Par romantisme, handicap, violence, oh la beauté, l'espoir du beau au creux de la haine. Violence ethnique, sociale, religieuse, mon œuvre. L'étendard étendu, droit, contre l'horizon, ô espoir. Nous sommes au Moyen-Âge. La terre est une terre de goulag, dans tous les sens, à tout extrême. L'abondance, béante, castrante, avide, vide. Et le manque, à pleines dents, épanoui dans l'horreur. La pauvreté jubilatoire, à en bouffer ses enfants. La terre est un goulag et nous sommes nos propres capots. Ô espoir, le bleu en retard. Faites la fête! Le bonheur dans le noir, ô alcool, drogue et autres féeries. Cris de joie dans les cimetières, rire d'amour sous les vautours. Ô joie dans le soir sorcier, prendre la mort par le bon bout. Et l'amour, la crème, le désir à la baguette. Oh, les corps étreints dans le soir, la poudre en envol, les yeux, la mémoire, la poignée de ciel face au sel, la beauté attrapée, atteinte, étreinte, éteinte. Oh, les cœurs dans le cendrier. Dans le bleu en retard, le gris de la guerre, la cendre au combat, l'amour à bout de bras, la tradition. Oh, les maquettes, les recettes, les usages, les codes à préserver. Le langage face au ciel, le ciel plié en Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, le mien. Ô espoir, le désir, le pouvoir. Posséder à qui l'on appartient. Être l'esclave qui sait, le capot. Suceur de déité et créateur de la méthode. Responsable initiatique, charmant chaman. Gardien dans ton cul de la tradition.
Anarchiste macédo-bulgarien.
L'influence des révolutionnaires russes sur ceux de Bulgarie s'explique par les échanges entre les deux pays et la présence de quelques révolutionnaires étrangers en Bulgarie et en Roumélie. Le poète bulgare Risto Botev est un proche de Sergueï Netchaïev, l'amant russe d'Albertine Autin, qui l'aide à obtenir des faux papiers. Et plus généralement, les allers-retours sont fréquents pour les étudiants et les activistes de tout poil. L'histoire et les méthodes des révolutionnaires russes sont alors au centre des attentions. Imprégnés des écrits de Bakounine, plusieurs Bulgares parcourent le territoire pour animer des discussions ou y créer des groupes locaux. Entre 1880 et 1890, plusieurs petits groupes anarchistes voient le jour, sans contact entre eux. Ils prônent l'auto-éducation par des lectures communes et des discussions. Et quelques-uns s'organisent dans les lycées en coopératives de consommation qu'ils nomment les communes. La première imprimerie est montée en 1896 à Rousset. À l'automne 1895, Peter Mandjoukov, Mihai Gerdjikov et Stefan Mikov fondent avec une dizaine de personnes, trois sont macédoniens et le reste bulgares, le comité central révolutionnaire macédonien et sont expulsés de leur lycée de Plovdiv pour propagande anarchiste. Ils s'installent tous trois à Kazanlik pour continuer leurs études. De nouveau, un groupe anarchiste d'une vingtaine de membres voit le jour. Et de nouveau, Mandjoukov, Gerdjikov et Mikov sont virés du lycée en 1897. Finalement, Gerdjikov, puis Mandjoukov, partent pour Genève, en Suisse. Ils y rencontrent un petit groupe d'anarchistes, macédo-bulgariens, composé entre autres de Svetoslav Merjanov, Kina Genova, Olga Balinova, Todora Zlateva et Jordan Kalchev. Et elles décident ensemble de lancer le groupe de Genève, qui bientôt se transforme en Comité révolutionnaire clandestin macédonien, CRCM. Présenté comme une succursale de celui de Plovdiv, dans son appel, rédigé en bulgare en 1897 et largement diffusé en Bulgarie et en Roumélie, le comité n'est pas favorable à une politique des nationalités et refuse de s'associer au projet nationaliste. Il préconise une fédération entre la Macédoine et la Thrace, la Roumélie, embryon d'une plus large fédération balkanique, dans laquelle toutes les populations pourraient vivre ensemble sans distinction de nationalité. Il publie, en juin 1898, le journal Glas, Voix en français. La même année est publié le journal Otmachteni, Vengeance en français, sous la direction de Mandjoukov et sous-titré « Organe des révolutionnaires terroristes macédoniens ». Deux citations sont mises en exergue. L'une est issue du best-seller des chrétiens, la Bible, « Œil pour œil, dent pour dent ». Et l'autre, en russe, d'un texte de Herzen. Ou l'un, ou l'autre, ou finirait à avancer, ou s'arrêter à mi-chemin. Nous ne savons ni le nombre d'exemplaires de ces journaux, ni s'il y a eu plusieurs numéros. Les noms des groupes genevois sont fluctuants, et il est difficile d'en saisir la réalité. Des tracts et des journaux sont envoyés à Plovdiv. Grigor Popdovtchev se charge de diffuser les textes du comité en Bulgarie et d'y trouver de l'argent. Ne parvenant pas à ses fins, il se suicide. Mandjoukov traduit en bulgare « Les crimes de Dieu » de Sébastien Faure et la déclaration d'Émile Henry. Le but affiché de ces anarchistes de Genève est de se battre en Roumélie pour qu'elles deviennent Macédoine et Thrace libérées. Ils décident d'abandonner leurs études.
Je me suis fait la promesse de ne pas devenir aigrie, que ça m'arriverait pas à moi. Et c'est arrivé. Mais c'est fini, ça. Je suis pas dans un délire suicidaire. C'est pas une cause perdue. C'est même pas une histoire de victoire, c'est... C'est histoire de garder notre putain de lumière allumée le plus longtemps possible.
Mandjoukov et Merjanov passent les frontières et arrivent à Plovdiv en octobre 1898, avec deux autres anarchistes, Kalchev et Dimitar Kochtanov. Ils y rencontrent Gojé Delchev, anarchiste et membre de l'ORM. Ils se mettent d'accord pour des activités communes. Merjanov et Kochtanov partent pour Salonique, Mandjoukov et Kalchev pour Skopje, pour y former de nouveaux groupes. Mandjoukov fait paraître pour l'occasion l'ABC de la doctrine anarchiste et Merjanov regroupe quelques anarchistes dont la plupart sont membres des bateliers. Après 4 mois, Merjanov se fait expulser hors de l'Empire ottoman. Quant à Mandjoukov, dénoncé, il est arrêté à la frontière bulgaro-ottomane, jugé, puis condamné à la peine de perpétuité. Acquitté et libéré en appel, il quitte Skopje et rejoint Sofia par des chemins détournés. Il y retrouve Merjanov, Delchev et Pitar Sokolov. Tous les quatre décident d'intégrer une petite unité de guérilla menée par Delchev. Le groupe entre en Roumélie en juillet 1899 pour y mener des actions de guérilla contre les forces ottomanes. Au bout de 4 mois, Mandjoukov et Merjanov retournent en Bulgarie, très critiques sur le choix tactique de la guérilla. Sokolov rentre en janvier 1900.
Ils suivent un autre chemin et se servent d'autres moyens de lutte, tout à fait différents des nôtres. D'autre part, n'est-ce pas la cause qui nous obligea à nous séparer de certains de nos anciens camarades qui sont restés là-bas, parcourant montagnes et vallées pour organiser et armer, pour préparer le peuple et les paysans? D'après les mémoires de Pavel Tchatev.
Silence ! On tourne ! Non, trop vite, beaucoup trop vite.
Excusez-moi, monsieur le metteur en scène. Le goût bulgare de Chambourcy, c'est ma folie. Nature ou aux fruits, goût bulgare de Chambourcy. C'est bon, le yogourt et goût bulgare Chambourcy.
Les Bateliers.
Svetoslav Merdjanov et Peter Mandzioukov veulent s'en tenir à ce que le groupe de Genève préconise, faire des actions terroristes ciblées contre les représentants et les soutiens du pouvoir ottoman. Leur but est tout autant d'affaiblir les Ottomans par la terreur, la destruction et la pression des investisseurs étrangers que d'alerter le monde sur la situation en Roumélie et la lutte de l'indépendance. Pour ce faire, ils ont pour compagnons ceux du petit groupe d'anarchistes monté par Merdjanov à Salonique. Généralement, ce groupe est désigné par le terme de batelier, Gemidzi en macédonien, sans que l'on sache exactement la raison. Le premier nom retenu, Gurultuku, était sans doute moins obscur. Pioché dans la langue turque osmanli, ce mot signifie « fauteur de troubles » ou « bruyant ».
Il y a une erreur, largement répandue et obstinément maintenue, qui concerne l'appartenance idéologique des bateliers. Ils sont qualifiés d'individualistes. Cette erreur est due probablement au fait qu'ils n'adhéraient pas à l'organisation révolutionnaire intérieure qu'ils considéraient autoritaire et centraliste. Peut-être aussi au fait que le groupe avait un caractère fermé, strictement conspiratif. Svetoslav Merdjanov, Petar Mandzioukov, Mikhail Gerdjikov furent anarchistes communistes nettement déterminés et nullement individualistes. Extrait de Georges Balkanski, Libération nationale et révolution sociale à l'exemple de la révolution macédonienne 1982.
Fin 1899, Merdjanov et Mandzioukov se rendent sous de fausses identités à Istanbul, chacun empruntant un itinéraire différent. Leur but est d'y mener une action violente, mais ils n'y disposent que de peu de moyens. Les premiers fonds sont obtenus auprès de l'exarque Joseph Ier, à qui Merdjanov extorque un peu d'argent. En couverture, Merdjanov se prétend étudiant en droit, dont la santé fragile nécessite d'être à Istanbul, et Mandzioukov dit vouloir s'inscrire au lycée français de la ville. Ce dernier justifie de revenus en se faisant embaucher comme typographe dans l'unique imprimerie bulgare stambouliote tenue par Stoyanov Kalchev et son fils Nancho, tous deux sympathisants de la cause macédonienne. Comme tous les ans, afin d'assister à une cérémonie devant le supposé manteau de Mahomet, le sultan ottoman se déplace dans Istanbul à bord d'une calèche entre son palais et le lieu de cérémonie. C'est cette occasion, le 14 janvier 1900, que Merdjanov et Mandzioukov choisissent pour intenter à la vie du sultan. Mais la foule et la rapidité à laquelle passe le cortège sultanesque ne permettent pas aux deux anarchistes de lancer leurs bombes ou d'ouvrir le feu sans prendre le risque de faire des blessés innocents. Finalement, ils renoncent à cette action. Ayant eu vent de la présence de ce groupe d'anarchistes, l'ORM, qui désavoue les attentats comme mode d'action, envoie à Istanbul un de ses membres pour exécuter Merdjanov et Mandzioukov. Parvenus à déjouer cette tentative sans tuer leur exécuteur, les anarchistes chargent Jordan Popjordanov, l'un des leurs à Salonique, de faire savoir directement à la direction de l'ORM que
« Si une seconde fois, vous tentez de tuer n'importe qui de nos camarades, nous vous réglerons votre compte à tous, car nous vous connaissons bien, et vous nous connaissez aussi. » Extrait de Georges Balkanski, Libération nationale et révolution sociale.
Sans connaître la nature exacte de leur projet, ni leur identité réelle, les autorités ottomanes lancent une récompense de 10 000 lires pour la capture de S. Merdjanov et de P. Mandzioukov. Petar Sokolov les rejoint à la fin du mois de janvier 1900. Il arrive sous sa vraie identité et fait valoir sa profession de peintre. Décidé à organiser un nouvel attentat, le trio anarchiste jette son dévolu sur la banque ottomane d'Istanbul, qu'ils veulent détruire à l'explosif. Celle-là même que les Arméniens avaient occupée en 1896. Pour eux, la cible est doublement intéressante, car outre les bureaux de la banque, le bâtiment abrite la régie des tabacs, dont les principaux capitaux sont français. Début mars 1900, une maison de 3 étages est louée en face de la banque au nom de l'imprimeur. Des stocks de papier et des caisses vides y sont entreposés. Dans cette maison, un puisard de 80 cm de large et de 3,5 mètres de profondeur est la base de départ de leur projet de percement d'un tunnel de 14,5 mètres sous la rue pour rejoindre un coin du bâtiment bancaire et y déposer des charges explosives. Deux personnes, Tseko Naumov et Adjeta, sont affectées à la surveillance de la maison pendant que 2 équipes se relaient pour percer. Constantin Kirchhoff et Majoukov forment une équipe, Sokolov et Merjanov une autre. Le 10 mars, Majoukov entame, seul, les trois premiers jours de travaux, armé d'un marteau, de burins, de bougies, d'allumettes et d'une boussole.
J'ai commencé par enlever des pierres de la maçonnerie en fixant à ma gauche, au fond du puisard, la bougie. Lorsque le trou atteignit les dimensions permettant de m'y introduire en rampant, je m'arrêtais. Mais l'insuffisance d'espace à l'endroit où je travaillais rendait très difficile l'arrachement des pierres. Et il était difficile plus encore de les retirer et de les arranger. Enfin, au prix de beaucoup d'efforts, je réussis à disposer les pierres de telle manière qu'elles me servaient de marche pour monter et descendre dans le puisard. Je ressentis une fatigue terrible. De plus, la flamme de la bougie diminuait peu à peu et s'éteignit. J'essayais de la rallumer, mais en vain. Les allumettes ne prenaient pas. La respiration devint difficile, l'air me manquait, ou plutôt, il était surchargé en gaz carbonique. Je sentis que j'étouffais et j'eus un début d'évanouissement. Je me dépêchai de remonter avant de perdre connaissance pour prendre du repos. Assis, en haut des marches de l'escalier, je m'endormis. Lorsque je me réveillais, la journée allait se terminer. Je sentis la faim et voulus dîner avant la tombée de la nuit. Mes mains étant très sales, je voulus me laver. Et c'est alors que je me rendis compte que j'avais oublié d'apporter de l'eau. Et alors, que faire? Après avoir hésité quelques instants, la faim me torturant, je décidai de me laver en me servant de ma propre urine. Je sais, c'est dégoûtant, pas la peine de me le dire, mais... Enfin, j'essuyai mes mains avec le mouchoir et puis je pris mon repas. Extrait des mémoires de Petar Mandjoukov.
Pendant une semaine, 10 heures par jour, les deux membres d'une équipe se chargent alternativement par tranche d'une heure du creusement et de l'évacuation des gravats pour l'un et de l'activation manuelle d'un grand soufflet de forgeron servant à l'aération pour l'autre, afin d'éviter l'asphyxie qu'a connue Mandjoukov. Ils restent sans sortir une semaine entière à travailler, puis ils sont relayés par l'autre équipe. Une fois par semaine, le mercredi, le responsable du détachement militaire protégeant la banque fait une tournée d'inspection des lieux et des maisons à proximité du bâtiment. Il inspecte quelques caisses de la maison louée et n'y trouve à chaque fois que des livres de langue russe ou des manuels législatifs. La nouvelle équipe profite de la relève militaire et de l'inspection hebdomadaire pour venir remplacer leur compagnon Kirchhoff, quitte Istanbul fin mai et Pavel Chatev le remplace début juin. Arrive aussi Pope Jordanov en ce début d'été 1900, venu aider, mais aussi voir le procédé, afin de peut-être faire la même chose à Salonique. Épuisant, les travaux continuent, mais ne peuvent se faire qu'en journée, car les coups de marteau risquent d'être entendus la nuit. Finalement, le percement est terminé le 7 août, presque 5 mois après le début des travaux.
Les 100 kilos d'explosifs doivent arriver à Batoum, dans l'actuelle Géorgie, par l'entremise d'un Arménien, Kozakov. Mais la marchandise se fait saisir par le hasard d'un contrôle douanier. Kozakov est arrêté, mais ne livre aucune information. En tant qu'étranger à l'Empire ottoman, il est finalement expulsé et plus d'explosifs. Dénoncé à la police ottomane par l'exarque Joseph Ier qui n'a pas digéré d'avoir été extorqué, Merjanov, Chatev, Sokolov et Mandjoukov sont arrêtés l'un après l'autre à la mi-septembre 1900. Ils sont interrogés et emprisonnés pendant 2 mois. La police n'identifie même pas Merjanov et Mandjoukov, pour qui elle a pourtant promis une récompense en cas de capture, et les motifs de leur arrestation n'ont pas de lien avec le percement du tunnel. L'ORM profite de cette arrestation pour envoyer à Istanbul l'un des siens afin de faire un rapport sur le projet du tunnel. Finalement, devant l'absence de charge, le sultan ordonne l'expulsion de 3 d'entre eux vers la Bulgarie. Seul Chatev, originaire de Kratovo en Roumélie ottomane, est assigné à résidence dans sa ville natale. Dès leur retour en Bulgarie, fin novembre 1900, Merjanov, Sokolov et Mandjoukov tentent de se fournir en explosifs pour terminer leur opération et participent à des activités plus classiquement militantes. Alors que Mandjoukov se fait embaucher en tant qu'acteur dans un théâtre ambulant, les deux premiers se joignent en juillet 1901 à un projet d'attaque contre le train du Shah, roi de Perse, qui doit passer en Thrace orientale, est de la Roumélie. Mais finalement, l'objectif devient le train postal de la région d'Andrinople. Mais l'opération est un échec et la petite équipe doit se replier. Dans leur fuite, ils kidnappent le fils d'un dignitaire ottoman, mais au moment de la remise de la rançon, ils sont pris par le feu des militaires de l'Empire. Victime collatérale dans le langage polémologique, le fils à papa est tué lors des échanges de tirs. Tatul Zarmarian, Sokolov et quatre autres anarchistes sont tués. Merdjanov, Christo, Adjilieva, Gheorghi Votev et deux Arméniens, Onik Torossian et Bedrov Siremdjian, tous blessés, sont arrêtés. Mandjoukov et Popjordanov essayent d'organiser une attaque de la prison pour libérer leurs compagnons, mais l'opération est abandonnée faute de moyens. Après 4 mois d'interrogatoire et de torture, les survivants sont condamnés à être pendus en place publique. La sentence est exécutée à Andrinople le 27 novembre 1901. Merdjanov tente une ultime déclaration, mais empêché, il place lui-même la corde autour de son cou et appelle une dernière fois à la révolution avant de mourir.
On dit que Mozart est mort, mais quand j'ouvre mon frigo, mozzarella. On dit que Mozart est mort, mais quand j'ouvre mon frigo, mozzarella.
Mozzarella, mozzarella. Mozzarella, 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 mozza, 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 mozzarella.
On dit que Mozart est mort, mais quand j'ouvre mon frigo, mozzarella. On dit que Mozart est mort, mais quand j'ouvre mon frigo, mozzarella.
Lors de perquisitions et d'arrestations à Salonique dans les rangs de l'ORM, la police ottomane tombe sur le rapport fait par l'envoyé de l'organisation sur le tunnel de la Banque d'Istanbul. Il est rebouché. Stoyanov Kaltchev et son fils, Nancho, sont arrêtés et condamnés à 1 siècle de prison. Le premier meurt rapidement et le second après sa libération en 1908. Pour survivre, Jordan Popjordanov et Pitar Mandjoukov se font embaucher dans les mines, proche de la ville bulgare de Bourgas, sur la mer Noire, puis enchaînent des petits boulots. En février 1902, Popjordanov part pour Genève, en Suisse, où un membre de l'ORM lui remet une grosse somme d'argent. Comme cela fut tenté à Istanbul, une équipe se charge du percement d'un tunnel pour dynamiter la banque ottomane de Salonique. Un local est loué par Vladimir Pingov et Ilya Tratchekov, dans la même rue que la banque, est transformée en salon de coiffure. Pavel Chatev et Dimitar Koshtanov entament les travaux de percement et le reste de l'équipe se charge de l'évacuation dans des caisses de terre qui est jetée à la mer. Mais le manque de moyens financiers contraint à suspendre le projet. L'accès au tunnel est bouché. L'argent remis à Genève, à Popjordanov, relance les travaux en mai 1902. Un nouveau local est loué, au nom de Marko Boshnakov, transformé cette fois-ci en épicerie. Ce tunnel doit rejoindre l'ancien, creusé à 3,5 mètres de profondeur. Après divers problèmes, les travaux s'achèvent en février 1903 et les explosifs sont installés à la mi-mars sous la banque. Une tonne d'explosifs est achetée et via le port de Marseille arrive à Alexandroupoli, alors en Thrace ottomane, en novembre 1902. Mais la marchandise est finalement récupérée par l'ORM. Un second envoi de 120 kg d'explosifs passe par l'Autriche et la Serbie pour parvenir à Plovdiv, où Mandjoukov les stocke. Étiqueté Batoum 1889, qui indique sa provenance et son ancienneté, les 120 kg d'explosifs doivent être manipulés avec précaution. Mandjoukov se charge de la logistique. Divisés en deux, les explosifs sont acheminés à Salonique. Une partie l'est via Sofia, cachée dans des sacs de riz et des bidons d'huile. Et l'autre partie transite par Istanbul avant d'arriver à Salonique. Au total, ce sont 300 kg d'explosifs dont dispose le groupe anarchiste.
Le 27 avril, tous les participants aux actions armées à venir se réunissent pour en fignoler l'organisation et se répartir les tâches. La plupart font librement le choix de ne pas survivre aux actions. Seuls Chatev, Boshnakov et Milan Arsov décident de tenter de s'échapper s'ils le peuvent. L'arrivée le 28 avril dans le port de Salonique du navire français, le Guadalquivir, de la compagnie des messageries maritimes, est le signal convenu pour le début des opérations. Sous un nom d'emprunt, Chatev se rend à bord du bateau et y dépose une dizaine de kilos d'explosifs dans la salle des machines. L'explosion, qui n'a fait aucun blessé, provoque un incendie qui contraint à l'évacuation de tous les passagers. Chatev profite de ce départ par chaloupe pour s'éclipser et prendre un train direction Skopje. L'incendie illumine la rade de Salonique pendant des heures. Dans la nuit, Dimitar Medchev, Ilya Trashkov et Milan Arsov font exploser une bombe sur la voie de chemin de fer Salonique-Istanbul, causant seulement quelques dégâts sur les wagons et la locomotive. Dans la soirée du 29, Konstantin Kirchhoff fait exploser les conduits du gaz d'éclairage, plongeant Salonique dans l'obscurité, et pose une bombe devant le grand hôtel de ville. Pop Jordanov active le dispositif sous la banque et la fait exploser. Le bâtiment est détruit. Arsov jette une bombe dans le jardin du théâtre de verdure de l'Alhambra et Yorgi Bogdanov dans un café. Après une tentative d'incendie échouée, Pinkov se fait tuer par un policier ottoman. Medjev et Trashkov essayent sans succès de faire exploser le réservoir de gaz d'éclairage et l'usine attenante. S'engage alors une fusillade entre eux deux et une patrouille lors de laquelle, à court de munitions, ils trouvent la mort. Après avoir lancé quelques bombes devant l'hôtel d'Égypte et le théâtre Eden, Pop Jordanov et Kirchhoff s'éclipsent. Dans la matinée du 30, Kirchhoff tente de s'introduire dans la poste centrale en se faisant passer pour un citoyen français ayant besoin d'envoyer un télégramme. Mais il est intercepté devant et tué par le militaire en faction sans avoir pu activer sa bombe. Retranché chez lui, Pop Jordanov affronte pendant plusieurs heures un groupe de militaires sur lesquels il tire et jette des bombes. Se sachant perdu, il écrit une dernière lettre d'amour à celle qu'il aurait bien voulu connaître plus. À court de munitions, il est abattu. Zvetko Naumov tente d'assassiner le préfet Hassan Fethi Pacha, mais il en est empêché par des militaires. Il fait exploser sa bombe et meurt le 1er mai 1903.
Je suis pas une exception, je confirme encore moins ta règle. Et moi je t'emmerde, et moi je t'emmerde.
Je suis pas une exception, je confirme encore moins ta règle. Et moi je t'emmerde, et moi je t'emmerde.
Je suis pas une exception, je confirme encore moins ta règle. Et moi je t'emmerde, et moi je t'emmerde.
Je suis pas une exception, je confirme encore moins ta règle. Et moi je t'emmerde, et moi je t'emmerde.
Pas besoin d'aide ni d'appel au secours.
Tu nous as mis des coups de matraque, massacré l'ossature.
Préviens ton bled, ses plaies sont de retour.
Mettra même mon futur, un couacre entre quatre murs.
L'appétit fusillé, j'emmerde ton 14 juillet.
Confetti éparpillé sur la marche des meurtriers.
J'emmerde tes fanfares, tes parades militaires.
Des éclats de cervelle, tâche ton bel uniforme vert.
Quant à moi, si j'emmerde cette pute au bonnet phrygien,
c'est sûrement qu'elle est plus souillée qu'un trottoir parisien.
Ça c'est bien, j'emmerde tes monuments historiques.
Des cris sans voix couverts par tes chants patriotiques.
Si aujourd'hui je t'emmerde, c'est que l'horreur n'est pas si loin.
Si la scène parlait, elle crierait 17 octobre 61.
Point à la fin de cette phrase, non.
Pas besoin de soins pour un kamikaze, non.
Une odeur de gaz dans ton journal télévisé.
J'ai remarqué que la base de mon crâne était visée.
Pas de basané, la blondeur et la blancheur sont de rigueur.
Parfois je me demande si ma télé est bien en couleur.
Douleur en première page, intégration en marge.
Lueur de liberté sous le souffle de l'esclavage.
Ils s'en foutent, c'est rien, c'est que du cendraton. Ah
ouais. Question droit humain, réponse match de foot.
Qu'ils aillent se faire foutre, tes supporters qui grondent.
Eh, dis-moi, ça coûte combien une coupe du monde?
Combien? Commerce triangulaire, philosophie des lumières,
action humanitaire pour marge bénéficiaire.
Regarde, regarde, j'emmerde tes chiens de garde.
Méfie-toi quand l'embuscade sourit à ta brigade.
Les habits ont des canines, raffolent du bleu marine.
Et leurs odeurs de tafiole remontent jusqu'aux narines.
Je rine dessus, tu trouves que je suis vulgaire?
Dis-le à ceux qui ont déjà fait un tour sur leur banquette arrière.
Les banquiers m'ont pris, ces petites saloperies.
Je les entaille, tous ces ratailles avec ou sans le kit.
Tolérance zéro pour eux, leur mère.
Je renvoie Sarkozy en Hongrie dans un vol charter.
C'est la guerre des pierres, de l'encre noire vénère coule dans mes artères.
Je te mêle pas de nos affaires, connard.
C'est ouais. Pas ton histoire que la France traîne dans ses tiroirs.
J'emmerde ton éducation nationale,
dont les livres d'histoire glorifient ton passé colonial.
Poussé dans des filières sans débouchés réels.
Les frères ont plus de classe que les profs réunis au conseil.
Plus de classe que tes rénovations minables.
Du serpent, du béton, ça le rendra pas plus confortable.
J'emmerde tes images de rêve, elles virent au cauchemar.
Les gosses en bas de chez moi vivent comme des clébards. J'emmerde tes assos nés sous signe du cocorico.
La France est malade, SOS racisme placebo.
J'emmerde ces carcasses puantes débordant de vinasse.
Moins con que tes électeurs, sans doute ça qui t'agace.
Enlève le F et le N du mot France.
Au garde à vous, quand leur Marseillaise commence.
Allons-nous asperger d'essence et si nos voix restent muettes.
Quelques connards ont la main posée sur la boîte d'allumettes.
Combien croupissent dans les cachots de ta république?
Combien vocifèrent dans les tribunes de l'hypocrisie?
Et par mes écrits, le décor que je décris,
on fera flipper la France comme Ali Lapointe en Algérie.
Quel bord, putain que ça nous tente.
Aujourd'hui on t'emmerde, demain on passe à l'étape suivante. Suivante.
Je suis pas une exception. exception, je confirme encore moins ta règle. Et moi je t'emmerde, et moi je t'emmerde. Je suis pas une exception, je confirme encore moins ta règle. Et moi je t'emmerde, et moi je t'emmerde. Je suis pas une exception, je confirme encore moins ta règle. Et moi je t'emmerde, et moi je t'emmerde. Je suis pas une exception, je confirme encore moins ta règle. Et moi je t'emmerde, et moi je t'emmerde.
Les évader, je t'emmerde.
Exil et déportation.
La répression fait 35 morts selon les Ottomans, entre 200 et 300 selon d'autres chiffres. Sur les environs, 2000 personnes arrêtées, 353 sont jugées et 33 d'entre elles sont condamnées. Pavel Tchatev, Marko Boshnakov, Georgi Bogdanov, Milan Arsov le sont à la peine capitale et les autres à des peines de 5 à 101 années de prison. Finalement, les peines de mort sont commuées en perpétuité. Après 3 ans d'emprisonnement, les 4 perpètes sont transférés à Mourzouk dans le désert du Fezzan libyen. En 1908, lors de l'amnistie des jeunes Turcs, seuls Tchatev et Bogdanov sont encore vivants.
Non, il n'y a personne.
Oui, ça ressemble à une fausse piste, je te l'accorde, mais c'est là, c'est leur planque, donc je suis sûr qu'il y a plein d'indices un peu partout.
C'est pas vrai.
Ça, par exemple. Non, mauvais exemple, ça c'est rien. Mais ils ont forcément laissé une trace derrière eux, il faut chercher.
Épilogue.
En soutien, entre le 28 avril et le 1er mai, des Tchétas menés par Mikhaïl Kerditov et Kotché Deltchev mènent quelques opérations de sabotage sur des ponts et des voies ferrées. Deltchev est abattu le 4 mai 1903 lors d'un accrochage entre sa Tchéta et une patrouille à sa poursuite dans la région de Salonique.
En août 1903, dans le vilayet de Monastir, actuel Bitola, et en Thrace, éclate une insurrection menée par l'Orima. Selon l'organisation, plus de 25 000 combattants affrontent des militaires ottomans dans des actions armées menées sur tout le territoire. Dans le vilayet de Monastir, là où les combats sont les plus féroces, la République de Kroutchevo est proclamée le 3 août en Thrace, la commune de Stranja l'est le 18. La première ne dure que 10 jours, et la seconde résiste jusqu'au 8 septembre. L'insurrection n'est pas sur une base ethnique. Ainsi, des Valaques, des Grecs ou des Arméniens participent directement aux combats ou aux éphémères indépendances. Et les populations turques sont appelées à rejoindre le mouvement. Le caractère anarchiste de la brève expérience de la commune de Stranja tient à la présence d'anarchistes parmi les Tchétchas, mais aussi à la volonté de Mikhaïl Kerditov, coordinateur en chef des Tchétchas de Thrace. La réponse ottomane est sanglante. Environ 12 000 maisons détruites, 200 villages rasés, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont à la rue et plus de 30 000 immigrent vers un autre pays. L'insurrection est écrasée en novembre 1903. L'aile gauche, qui n'était pas favorable au lancement de l'insurrection d'août 1903, jugée prématurée, est alors prédominante parmi les militants de l'Orima. Les divergences politiques et stratégiques sont de plus en plus importantes. Et en 1907, la rupture est consommée, après des assassinats internes. L'Orima cesse ses activités l'année suivante. Avec la montée des jeunes turcs, certains se lancent dans l'activisme légal. Face à la tournure nationaliste turque prise par ce mouvement, l'Orima est reconstituée et reprend les armes en 1909.
Un groupe d'anarchistes des Balkans dénommé Fraternité Rouge mène encore des actions contre les militaires dans plusieurs régions sous domination ottomane entre 1910 et 1912.
Pendant la Première Guerre mondiale, les anarchistes macédo-bulgariens qui refusent de s'y engager fuient à l'étranger. D'autres restent sur place et s'organisent en groupes clandestins, tels Yorgi Cheytanov et ses comparses. Après de nombreuses attaques, accrochages et évasions, une douzaine d'entre elles, dont Cheytanov, sont fusillées le 2 juin 1925.
Malgré le désaccord de la Fédération anarchiste communiste bulgare, FACB, de nombreux anarchistes participent à des maquis pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec la Bulgarie et la Macédoine, devenues yougoslaves, sous des régimes communistes, quelques anarchistes bulgares veulent continuer la lutte clandestine contre ce nouveau totalitarisme. Action symbolique, le 3 mars 1953, dans un parc du centre de Sofia, la statue du bolcheviste russe Staline est détruite par explosif. Le 5 mars, Staline meurt réellement. Après un mois de cavale, l'anarchiste Georgi Konstantinov est arrêté puis condamné à 20 années de prison. Au printemps 1953, Bogdan Stefanov, Miliou Ivanov et Doncho Karaivanov, exilés en France, parviennent à passer la frontière bulgare avec des armes et une radio, mais l'impossibilité de franchir une rivière en crue les force à rebrousser chemin. La FACB, dont les structures principales sont en France, désapprouve fermement ce type d'initiative. Entre septembre 1953 et mars 1954, il relance cette idée de guérilla en Bulgarie, décidé à lutter contre le pouvoir en place. Bogdan Stefanov, Miliou Ivanov et Doncho Karaivanov sont parachutés avec des armes et du matériel radio dans une région montagneuse avec l'aide de la CIA, à qui ils ont fait miroiter de monter une radio anticommuniste. Puis ils sont rejoints par Emilia Karaivanova qui, elle, est déjà en Bulgarie. L'émetteur radio est installé et des émissions au ton anarchiste sont diffusées. Et elle reste plusieurs mois sur place à tenter d'organiser un premier foyer de guérilla. Surpris par une patrouille, elle reste pourchassée et doivent fuir. Stefanov et Ivanov se font tuer. Grâce à l'aide d'anarchistes locaux, Doncho Karaivanov et Emilia Karaivanova parviennent à quitter la Bulgarie puis rejoindre la France.
Détournement.
L'héroïsme, n'avoir rien à dire et ne rien dire quand même. Extrait de Éloge de rien, 2014.
Depuis la fin du 19e siècle, les mythologies nationalistes bulgares puis macédoniennes se sont construites en intégrant dans leurs romans nationaux respectifs des événements et des personnes parfois très éloignées des buts de ces nationalismes. Par le prisme de ces mythologies, le passé est revisité pour les besoins du présent. Dans le cas de la Bulgarie et de la Macédoine, dont les projets sont antagonistes, chacune revendique à sa manière des faits historiques. Parfois les mêmes, car leurs mémoires sont concurrentes. Elles disputent pour savoir si tel ou tel fait partie de la Bulgarité ou de la Macédoinité. Les deux pays glorifient l'insurrection de 1903, mais la Macédoine en fait un acte anti-bulgare. Ainsi, que ce soit la Bulgarie ou la Macédoine, chacune possède sa rue, sa place, son école ou son monument, à la gloire de Risto Botev, Goce Deletchev, des bateliers, ou de l'insurrection de 1903 menée par l'organisation révolutionnaire macédonienne, ORM. À part si c'est pour en faire un appel à vandalisme, à destruction, nous n'avons pas de projet de lister l'ensemble de ces tristes lieux, qui sont des insultes à celles qui y sont honorées. Pour celles qui sont les plus festifs, il est toujours possible de s'y rendre pour aller uriner ou vomir dessus. Les bateliers ont inspiré l'écrivain bulgare Anton Strachimirov, ancien membre de l'Orima, pour écrire sa nouvelle Roby, esclave, en 1930. Et le yougoslave Zika Mitrovic, qui réalise en 1961 le film « Les assassins de Salonique ». En 1983, « Les conspirateurs de Salonique » est le nom d'une pièce de théâtre jouée en Bulgarie.
Ce qui distingue les bateliers, c'est que dans leur volonté de se sacrifier et de disparaître sans laisser de traces, ils ne s'y mêlent aucun élément de fierté, ni de vanité, aucun complexe de supériorité. Ils n'idéalisaient pas leur œuvre, au contraire, ils sont conscients qu'elle ne mérite pas l'admiration, qu'elle entraîne des malheurs et des souffrances. La vérité est que les bateliers se considéraient anarchistes communistes, se réclamant de Kropotkin et de Jean Grave. Ils acceptaient entièrement la propagande par le fait, recommandée à l'époque par Kropotkin. Extrait de Georges Balkanski, Libération nationale et révolution sociale. Dédicace.
Gemiji est le nom de la discrète maisonnette d'édition qui publia en 2017 le recueil Analecte de rien, l'œuvre majeure de F. Merjanov.
Work it till your stomach hurting. Don't stop it, get it. Break it down till your body sweating. Everybody watching. That don't mean we stopping. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it. Jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it. Jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it. What you know about a bang bang? Don't you wanna know? But you can't stay close. Relax and take off your coat. Turn something never seen before. What you know about a bang bang? Don't you wanna know? But you can't stay close. Relax and take off your coat. Turn something never seen before. Booty rocking, show stopping. Everybody back, popping me. Jerk it, girl. Work it till your stomach hurting. Don't stop, better get it. Break it off your body, sweating. Everybody watching. That don't mean we stopping. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it. Jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it. Jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it. Velveteen, nothing less. Excuse me when I touch myself. Pop my skirt, watch me work. Let it go till body hurt. You know we ain't stopping. All them bitches watching. Big booty, little booty. Pop it, pop it, pop it, pop it. Big girl gotta dance too. Bang the flow till you bang through. Shake it till you break it. Till you sweat it. You can't take it, take it. Big girl's gonna dance too. Bang the flow till you bang through. Shake it till you break it. Till you sweat it. You can't take it, take it, take it, take it, take it. Take it, 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 dust it off and jerk it, jerk it, dust it off and jerk it, jerk it, dust it off and jerk it, jerk it, dust it off and jerk it. Jerk it, booty rockin', show stopping. Everybody back, poppin' me. Jerk it, girl, work it till your stomach hurtin'. Don't stop, gotta get it, break it off to your body, sweatin'. Everybody watchin', that don't mean we stoppin'. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it, jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it, jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it, go. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it, jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it. Let them know you worth it. Dust it off and jerk it, jerk it, jerk it. Dust it off and jerk it, go, go, go.
Tout sur rien. Le quatrième mardi du mois à 17h. Le vendredi à 9h30. 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort. 102.0 à La Salle. 103.3 de Ganges-Vigan.